pied sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Il faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
Je dois vous faire un aveu. Il m'arrive de consulter un site internet assez peu recommandable qui s'appelle faitsdivers.org. Pour vous donner une idée, vous allez vite comprendre, à la une aujourd'hui, à 8h19, Paris, ils découvrent leur bébé mort couvert de vomi chez la nourrice. Tout de suite suivi de « Sa belle-mère lui tord les parties génitales parce qu'il a fait pipi au lit ». Bon, pas la peine de continuer, je crois que c'est assez clair. Et rassurez-vous, ce n'est pas là que nous trouvons les histoires que nous racontons. De toute façon, il n'y a là que des faits divers repris dans d'autres médias et agglomérés en fonction de leur potentiel glauque, sordide, s'il y a du sang, du sexe, des morts. Je ne suis pas sûre que je regarde ce site parce que j'aime les faits divers racontés. Je ne clique d'ailleurs jamais, je regarde juste les titres. Je ne crois pas non plus que cette manie un peu coupable soit liée au fait que le fait divers est un art de masse et que la dialectique du sens et de la signification y a une fonction historique bien plus claire que dans la littérature, comme l'écrivait Roland Barthes. En consultant ces nouvelles étranges, horribles, illisibles, je crois que je me conforte simplement dans l'idée qu'il n'y a pas de mauvais ou de bons sujets. Pas d'histoire qui vaille la peine d'être racontée plus que d'autres, pas de vie qui ait plus de sens ou de valeur que d'autres, mais que tout est dans le style, le traitement, le soin, le choix, l'écriture, aussi modeste et simple soit-elle. Une ligne dans faitsdivers.org ou une demi-heure de pied sur terre par Antoine Lee, par exemple, à vous de voir la différence. Aujourd'hui justement, dans l'histoire qu'il vous raconte, il n'y a pas de sang ni de crime, mais c'est une petite histoire, à hauteur d'homme ou de femme, un fait personnel, divers, très signifiant, mais qui n'a pas changé la face du monde, qui n'a pas d'autre intérêt que de poser au passage des petites questions sur le consentement sexuel, la filiation, les liens du sang et du cœur et la place de nos convictions politiques dans la vie quotidienne. Un fait divers, oui, mais pas .org. C'est jusqu'à 14h dans Les Pieds sur Terre par Antoine Lee.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. Et c'est comme ça que les choses arrivent.
Je m'appelle Stéphanie, je vais avoir 48 ans. J'habite dans la banlieue sud-est de Paris depuis l'âge de 3 mois et demi. J'ai été adoptée à l'âge de donc 3 mois et demi par un couple qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Ma mère avait été opérée à l'âge de 26 ans, un an après son mariage, d'un fibrome. Puis à cette époque-là, on regardait pas. Hein. On l'a opérée, elle a eu une hystérectomie. Enfin, ils se sont pas posé de questions. Et puis, quelques temps après, elle avait très envie, avec mon père, d'avoir un enfant. Donc, ils ont déposé un dossier. Et puis, ça met toujours énormément de temps dans ces cas-là. Et puis un jour, dans l'autobus, ma mère, elle croise la dame chez qui ma grand-mère maternelle était gouvernante pendant les années 40, 50, je me souviens plus bien. Et puis elle lui dit « Ah, qu'est-ce que tu deviens ?» Alors elle lui dit « Je me suis mariée, par contre, je peux pas avoir d'enfant, etc. » Elle lui dit « C'est drôle, parce qu'avec mon mari, on a fondé une association à côté de Cannes-la-Bocca pour les enfants abandonnés. » Et du coup, concours de circonstances un peu magique. Et du coup, quelques temps après, la dame qu'elle avait vue dans le bus la rappelle en lui disant « Voilà, il y a une petite fille de 3 mois et demi, vous pouvez venir la chercher demain ou après-demain. » Enfin, un truc fou. Et là, branle-bas de combat, ils ont fait ma chambre en 2 jours. Ils ont été acheter un chauffe-biberon, des pyjamas, faire les papiers peints, etc. Et puis, ils sont partis en train, avec un couffin vide, me chercher dans le sud de la France. Et puis, du coup, ils sont arrivés là-bas. On leur a fait visiter la pouponnière. Et puis là, ils sont rentrés dans une pièce où il y avait ce magnifique bébé, moi. Et ma mère a tendu son annulaire où il y avait son alliance. Et apparemment, j'ai attrapé son doigt et elle s'est dit, c'est que c'est mon bébé. Et puis voilà, le début de l'aventure. Puis j'ai grandi dans une famille heureuse où j'ai toujours su que j'avais été adoptée, du coup, je disais toujours ce qu'on m'a traité, hein, de bâtarde ou de trucs comme ça, parce que moi, je me suis jamais cachée d'avoir été adoptée. Et en fait, je rétorquais toujours, bah, moi, au moins, je suis sûre d'avoir été désirée parce que on m'a voulu. Et l'adolescence, je me suis posé pas mal de questions. Où est-ce qu'elle est, ma mère naturelle, celle qui m'a portée dans son ventre, sans rien me demander particulier, sans faire de recherche. C'est après la naissance de mes filles en 2001 où j'ai contacté l'association où j'avais été adoptée pour savoir s'il y avait des informations sur ma mère de naissance. Et donc là, je suis tombée sur un monsieur qui me connaissait, donc qui se souvenait très bien de moi. Et du coup, il m'explique dans mon dossier qu'il y a des choses sur ma mère de naissance, notamment son prénom, son lieu de naissance, son année de naissance. Et quelques renseignements, et il me dit que j'étais, que c'est marqué que j'étais un enfant de l'amour. Et puis après, bah, la vie suit son cours, et puis j'y pense plus, ou quand j'y pense, c'est, ça vient et ça repart, quoi. Et puis en 2009, le 13 mars 2009, c'était un vendredi, j'étais dans la chambre de mon fils aîné en train d'ouvrir les volets et je vois un couple d'une cinquantaine d'années qui rentre dans le jardin et qui demande la famille Martin ou Dubois ou je ne sais quoi. Et puis je dis bah c'est pas ici. Et puis je referme la fenêtre, puis je dis à mon mari, je dis faut qu'on arrive à sécuriser ce portail, n'importe qui rentre dans le jardin. Et puis voilà, et puis je pars, j'emmène mon fils à la crèche, mon mari part de son côté emmener les enfants à l'école, et puis on part bosser chacun de notre côté, et puis à midi, je rentre de visite à domicile du boulot, et la secrétaire de la structure où je travaille me dit, bah, écoute, ton mari vient d'appeler, il a quelque chose d'important à te dire, il arrive. Alors là, moi qui suis du coup quelqu'un de particulièrement vite angoissé ou bileuse, je me dis bah il se passe quelque chose, il va me quitter, ou enfin je voyais tout de suite le pire, un enfant a eu un accident, ou, et puis il arrive et puis il me dit faut que je boive quelque chose de fort. Alors on va au Flunch à côté de mon boulot. La seule boisson la plus forte qu'il y avait, c'était une Kronenbourg. Donc il prend une bière et puis il était rouge, puis blanc, puis rouge, puis blanc. Puis il me dit, faut que je te parle. Les gens qu'on a vus ce matin dans le jardin, ils m'ont suivi jusqu'au boulot. Ils ont demandé un entretien avec moi. Et en fait, c'est des détectives privés. Et à partir du moment où il a dit c'était des détectives privés, je lui ai répondu, c'est ma mère biologique qui me cherche. Et il m'a dit, bah oui. Donc, du coup, bah, on a discuté un peu. Je lui dis, bah, qu'est-ce qu'ils veulent ? Il me dit, bah, les détectives privés sont là pour le week-end. Si tu veux, on peut les voir. Alors, je dis, bah oui, mais tout de suite. J'en étais vendredi. Je dis, moi, j'attends pas samedi ou dimanche. J'appelle le boulot. Je leur dis que je reviendrai pas cet après-midi. Et puis, on appelle les détectives privés. On les fait venir à la maison et ils m'expliquent. Donc, les détectives sont arrivés. Et alors je suis assez pragmatique hein, parce que du coup la première chose que je leur ai demandé c'est si elle avait besoin d'un rein, d'un organe, de quelque chose de vital, pourquoi elle me recherchait là tout d'un coup 39 ans plus tard. Et en fait non, c'était juste le besoin de savoir qui j'étais, ce que je devenais, qui j'étais. Alors après moi il faut que ça aille très vite hein. Une fois que les détectives m'ont raconté le truc, moi il faut que j'entende la voix de cette femme, il faut que je lui parle, il faut que je la rencontre, et surtout il faut que je parle à mes parents. Parce que là, ça devient vachement concret. Il faut que j'aille les voir. Et puis le lundi, je vais chez mes parents vers 11h30. Et ma mère me dit, oh là là, quelle bonne surprise. Jamais tu nous fais des surprises. Dans ma tête, je me dis, bah dis donc, quand tu vas savoir pourquoi je suis là, ça va être un peu la déconfiture. Et puis nous voilà tous les trois assis. Et puis là, je dis, bah, faut que je suis venue vous parler de quelque chose. Et c'est marrant parce que mon père, il me dit qu'il a compris tout de suite. Je me vois à côté de ma mère sur le canapé, je lui prends la main et je lui dis « Maman, ça changera rien à rien, mais il faut que je te dise quelque chose. » Et là, je la vois, le visage qui bouge un peu, enfin, un peu expressive. Je lui dis « Voilà, écoute le truc fou, vendredi. » Et puis, je lui raconte ce que je viens de vous raconter. Et c'est là où elle me dit « Mais tu sais, elle serait venue il y a longtemps, je me serais enfuie avec toi, jamais je t'aurais laissé à qui que ce soit. » Je dis, bah, écoute, là, on va dire que c'est plutôt une aubaine, j'ai 39 ans, je suis construite, je suis mariée, j'ai des enfants, je sais qui m'a soignée la nuit quand j'étais malade, qui m'a emmenée là où je suis aujourd'hui. Donc il n'y a pas d'équivoque. Je dis par contre, moi j'ai besoin de la rencontrer, j'ai besoin que vous la rencontriez et j'ai besoin de parler avec elle. Besoin de connaître son puzzle de vie. En fait, il a toujours manqué. C'est comme un puzzle où il manque quelques pièces pour arriver à se sentir entier, quoi. Une fois que je leur dis, j'ai l'impression qu'ils m'autorisent à aller plus loin après. Et donc là, après, eh ben, franchement, ce que je me rappelle, c'est que la semaine d'après ou 15 jours après, ma mère biologique et son époux sont montés en région parisienne pour nous rencontrer. Donc j'avais, moi, orchestré complètement cette journée. Je voulais que mes enfants ne soient pas là, qu'ils soient partis chez mes parents, qu'on se voit que nous, elle, moi, mon mari et le sien. Et puis, donc elle passe le portail. Alors j'avais mis des plombes à savoir comment m'habiller, comment j'allais être coiffée, est-ce que je me maquille, est-ce que je mets des talons, est-ce que j'en mets pas. Enfin, une hystérique, quoi. Je transpirais. Enfin, c'était vraiment étrange parce que du coup, c'était un peu rencontre du troisième type, quoi. Et puis, ils sont rentrés dans notre jardin. Et là, c'est vrai que quand j'ai vu son visage, tout le bas du visage, on a la même forme de bouche, on a le même menton. On a une photo de nous deux ce jour-là où on sourit toutes les deux. Et alors, c'est exactement le même sourire, quoi. C'est assez étrange. Et donc là, elle m'a raconté, donc j'ai eu mon puzzle. Donc, elle va à une fête de l'aumônerie, dans là où elle habitait. Et puis, bah, y a un gars qui lui fait un peu d'avance. Et puis, il l'entraîne je ne sais où et il couche avec elle. Elle a 16 ans, puisqu'elle m'a eu à 17 ans. Donc, et donc, du coup, elle dit qu'elle s'est fait violer. Sauf qu'elle n'a pas dit non. Mais elle n'a pas dit oui. Elle s'est laissée faire. C'est comme un viol par sidération ou comme si elle n'était pas. Elle voyait la scène, mais elle n'est plus dans son enveloppe corporelle. Elle est voilà, elle se laisse faire. Elle dit pas non, elle dit pas oui. Hein. Et puis, elle se rend compte quelque temps après qu'elle est enceinte. Donc elle le dit à sa mère, qui veut pas entendre parler de ça, hein, parce que dans ces familles un peu bourgeoises, militaires. On dit pas ces choses-là. Donc à partir du moment où ça a commencé à se voir, elle a été envoyée chez une tante, pas très loin, où on l'a cachée pendant toute la fin de sa grossesse. Mais pendant tout ce temps-là, elle avait manigancé avec sa tante pour que sa tante se fasse passer pour la mère du bébé au moment de sa naissance et puis qu'elle puisse me garder avec elle. Elle avait choisi mon prénom, c'était le prénom de sa meilleure amie. Elle avait acheté des pyjamas, elle avait acheté un couffin. Vraiment, elle se préparait à mon arrivée et à couper les ponts avec sa famille pour pouvoir me garder sous la protection de sa tante. Et puis, la veille de ma naissance, elle était avec sa sœur et son frère chez sa tante, en train de manger du riz aux gruyères. Et tout d'un coup, elle perd les os. Et après, le trou noir. Jusqu'à ce que elle se réveille, le ventre vide, dans une maternité, sans bébé, plus de bébé. Ils lui ont donné des somnifères, ou en tout cas, ils l'ont droguée pour pouvoir faire ce qu'ils voulaient. Et ça s'explique, moi je suis née au forceps. Et ça je le savais parce que j'ai eu très longtemps les marques sur les côtés des tempes. Et du coup, c'est vrai qu'on m'a arraché au forceps, au ventre de ma mère biologique. Donc du coup, dans ce que je me souviens de ce qu'elle m'a raconté, c'est qu'en fait sa mère l'a emmenée dans l'association où elle m'avait déposée, qu'elle m'a vue mais qu'elle n'avait pas eu le droit de me toucher. Il fallait qu'elle signe un papier, sa mère a signé un papier pour que je puisse être adoptée, mais ça a été un terrible déchirement. Et puis, après, la vie a plus ou moins repris son cours. Et en septembre, donc moi je suis née en début d'année, et en septembre de cette même année, elle me raconte qu'elle a fait une tentative de suicide. Elle s'est jetée d'un immeuble, mais elle a eu des multiples fractures, et elle a mis très très longtemps à s'en remettre, à remarcher, etc. Et puis après, elle a rencontré le père de ses enfants, de ses fils, à qui elle n'a rien dit. Et elle a continué à vivre, à avoir deux fils, à voyager énormément à cause du boulot de son mari, sans jamais rien dire de mon existence à personne. Ni à son mari, ni à ses enfants. Par contre, elle dit que tous les ans, autour de ma date anniversaire, elle n'était pas bien, elle était déprimée, dépressive. Il lui manquait toujours quelque chose pour avancer en étant épanouie, en étant bien. Son mari m'a dit, quand on s'était rencontrés, qu'elle disparaissait parfois, quelques jours au moment de cette date anniversaire. Mais lui, il ne l'avait jamais associé à cet événement-là, du coup. Et je crois que c'est fin 90 ou début des années 2000 où elle a avoué mon existence à son mari. Et puis, elle a refait une tentative de suicide encore après, qui ont conduit ses enfants et son mari à engager les détectives privés pour partir à ma recherche, parce qu'ils ne voulaient plus que leur mère, elle continue à tenter de mettre fin à ses jours. En plus, voilà, elle était grand-mère, ses enfants étaient grands, enfin, tout était pour le mieux, mais il y avait toujours ce petit ce truc qui coinçait de pas me retrouver. Mais cette rencontre, c'est pas des retrouvailles. C'est une trouvaille pour moi. Pour elle, c'est une retrouvaille. Et ça a fait d'emblée dans ma tête un décalage entre elle et moi. Parce que moi, je ne la connais pas. Je ne l'ai jamais cherché plus que ça. Elle me retrouve et moi je la trouve. Et du coup, on n'est pas sur le même pied d'égalité. Et puis du coup, pendant toute une première partie de cette rencontre, même longtemps après, je me suis pas positionnée en tant que sa fille. J'ai pris sa peine, mais en tant que maman. Et je ressentais les choses de mon point de vue de mère, pas de mon point de vue de fille, en fait. Après, on s'est revus plusieurs fois, ma mère biologique, son mari, mon mari et mes enfants. Et puis, l'année qui a suivi, on a fait Noël dans ma belle famille et j'ai voulu qu'on fasse une surprise à ma mère biologique vers le 26 ou le 27 décembre, que j'ai organisé avec mes frères. Et on est descendu chez elle pour faire un Noël juste après Noël. Alors, c'était bizarre parce que elle me demandait des choses que moi je ne voulais pas ou je n'avais pas envie de faire ou que je ne savais pas faire. Elle avait fait venir un photographe professionnel pour qu'on prenne des photos de nous tous, de nous ensemble, des enfants, etc. Et après, elle me demandait si je voulais un poster de, je sais plus, 20 sur 30 ou même 30 sur 40 pour l'afficher chez moi. Mais je n'ai jamais eu envie d'afficher un poster de sa famille sur mes murs. Et du coup, il y a eu des décalages, parfois, ou des envies de me prendre dans ses bras, que moi je faisais pour lui faire plaisir, mais où j'avais pas forcément envie. C'est quand même étrange. Elle retrouvait quelqu'un qu'elle avait porté dans son ventre pendant 9 mois, et qu'elle avait mis au monde, et qu'elle avait idéalisé ou fabriqué dans sa tête pendant 39 ans. Sauf que moi, j'attendais rien. À part ces pièces de puzzle, j'attendais rien de plus. Mais on peut pas rattraper 40 ans. On peut pas rattraper une histoire. On peut pas rattraper des choses qu'on n'a pas vécues. Et je pense que je serais vraiment pas celle que je suis aujourd'hui si c'était elle qui m'avait élevée, de par les valeurs qu'on peut porter, l'image qu'on a de la société, sur des débats sociétaux, sur des débats politiques, sur voilà ce qu'on peut penser des politiques gouvernementales. On est aux antipodes. Enfin voilà, il y a tout un tas de choses où on n'est vraiment pas en adéquation. Et puis moi, depuis l'âge de 16 ans, je suis une militante communiste. Je pense que des communistes, elle n'en avait jamais vu de sa vie. Donc il y avait un peu l'attrait de la découverte. Et puis, en même temps, voilà, nous, on porte des idées humanistes contre le racisme, contre l'antisémitisme, contre l'homophobie. Et c'est vrai que je pense qu'il y a des choses où on est complètement en désaccord. Moi, entendre dire que quelqu'un profite des allocations, vit mieux au RSA que quelqu'un qui travaille, c'est des choses que je peux pas entendre. Ou que dans une ville, on se sent plus chez nous. On n'est plus chez nous dans tel quartier. Enfin voilà, c'est des choses pour mon mari, pour moi et pour la façon dont on élève nos enfants qui sont insupportables. Voilà, faut. Puis voilà, puis on réécrit pas l'histoire de la guerre d'Algérie. On peut pas parler des massacres de Sétif et Guelma sans être en profond désaccord. Ou et puis bah, même en éducation. Pour nos enfants, je pense que elle a fini par le dire à mot découvert, surtout son mari. On n'élevait pas nos enfants comme elle aurait imaginé qu'on devait élever des enfants. Donc j'ai eu l'impression parfois d'en rabattre un peu justement sur qui j'étais et ce qui faisait que j'étais moi, avec ces valeurs-là, avec ces idées-là. Alors, côté un peu, mettre un peu ça en sourdine quand même quand j'étais avec elle, jusqu'à ce que cet été 2011, mon mari et moi, on n'y arrive plus. Alors, je me souviens, on était chez eux, en vacances, il y avait la piscine, il y avait la mer, on était bien, et donc ils recevaient un couple d'amis pour l'apéritif. Donc, il y avait un côté... où il fallait me montrer, enfin me présenter en tout cas, pas comme une bête curieuse, mais ça y est, j'ai retrouvé ma fille, faut que je te la présente, faut que je te la montre. Alors je dis pas comme une bête curieuse, mais si je le dis, c'est que je l'ai ressenti aussi quand même, un petit peu. Et là, elle nous explique qu'en fait, au vu de l'espace qu'il y a pour dormir et tout, elle va garder mes enfants près d'elle, et que moi, avec mon mari, on ira dormir à 2 minutes à vélo, dans un appartement un petit peu plus loin. Et là, bah, c'était insupportable pour moi. Elle avait l'impression que tout rentrait dans l'ordre. Elle avait ses petits-enfants qu'elle prenait près d'elle, comme n'importe quel grand-parent prenne leurs petits-enfants. Sauf que moi, c'était pas ça que je ressentais. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, on arrivait peut-être au bout d'un chemin qu'on avait eu besoin, toutes les deux, de parcourir... mais qu'on arrivait au bout de quelque chose, ou en tout cas qu'on n'arrivait pas à trouver une direction commune à prendre ensemble pour continuer à avoir des relations saines, équilibrées. Mère-fille, j'en sais rien, mais en tout cas qu'elle allait avancer. Et donc ça, c'était en août 2011. Et là où je m'en veux aujourd'hui, c'est qu'en fait, j'ai pas été capable de lui dire que c'était plus possible. Et en fait, on s'est barré comme des voleurs. Voilà, j'ai coupé court à cette relation du jour au lendemain, sans la prévenir, sans crier gare, quoi. Je suis partie comme je suis venue, en fait. Donc, elle m'a écrit une lettre, quelques temps après, en disant qu'en fait, elle m'en voulait pas, que en fait, bah, je sais que t'es heureuse, je sais que t'es bien, donc bah, c'était juste ça que j'avais besoin de savoir. Donc voilà. Est-ce qu'on se serait accepté ou pas? Est-ce qu'on aurait continué à avoir des débats compliqués? Ou est-ce qu'elle aurait cherché à me convaincre? Est-ce que j'aurais cherché à la convaincre? Je sais pas. Est-ce qu'elle serait venue avec moi à la fête de l'UMA? Ou je pense que oui. Enfin, je sais pas. Je pense que de part et d'autre, la façon dont on a fait les choses ont eu des répercussions après. Qui aurait peut-être pas eu lieu si on avait fait les choses plus tranquillement, plus lentement, etc. Après, je regrette pas parce que... Alors, j'ai appris des choses terribles. Hein. J'ai appris que j'étais donc l'enfant d'un viol, qu'on aurait aimé me garder, mais qu'on avait forcé à me laisser. Du coup, j'en voulais un peu à l'association par laquelle j'ai été adoptée, parce qu'ils m'ont raconté des cracks. J'étais pas un enfant de l'amour. Enfin, ma mère biologique m'avait pas laissé de son plein gré. Enfin, des choses qu'on m'avait racontées étaient fausses. Et ça, je trouve ça dommage. Mais cette femme, pendant 9 mois, elle m'a aimée. Et ça, j'en suis par contre reconnaissante à tout jamais. Ça n'a pas été quelqu'un pendant 9 mois qui avait envie de rejeter ce qu'elle avait à l'intérieur d'elle. Voilà, je sais que pendant 9 mois, elle a caressé son ventre en me disant qu'elle m'aimait. Et ça, je pense que c'est un atout pour toujours. Et ça, je lui en serais toujours reconnaissante par contre.
Thank you.
elle fait partie de mon histoire. Mais pas de... Des fois, je me dis, si on me dit, tiens, tu sais, elle est décédée, j'arrive pas à me dire que je vais avoir de la peine ou pas. J'en sais rien du tout. C'est bizarre hein, de dire ça, voilà, je ressens pas, je... Mais c'est pourtant la réalité. J'ai pas de... Comme un électroencéphalogramme plat, en fait. Mais c'est plutôt agréable. Parce qu'avant, cette histoire de mère biologique et d'histoire, soit avant de la rencontrer, soit une fois que je l'ai rencontrée, c'était source d'anxiété, source d'émotion, source de bon et de mauvais. Ça pouvait être hyper déstabilisant. Quand j'étais en troisième, il y a une prof de français qui nous dit qu'elle arrive de l'étranger, où elle a vécu avec son mari pendant 15 ans, nanana. Et puis, deux, trois jours après, cours de français, elle dit « Mademoiselle, vous viendrez me voir à la fin du cours ». Pendant tout le cours, je me suis dit, si ça se trouve, c'est ma mère biologique. Elle m'a recherchée, c'est ma prof, et elle va me l'annoncer à la fin du cours. Et en fait, à la fin du cours, elle m'a demandé si je soignais mes problèmes d'acné. Quand vous vous baladez dans la rue en vous disant, peut-être que c'est elle, ou peut-être que c'est elle, ou peut-être que c'est elle, bah, en fait, je préfère avoir l'électroencéphalogramme plat, savoir qui est qui, et où est qui, et comment ça fonctionne, plutôt que d'avoir à ressentir ce que je viens de décrire là, de moments comme ça, de doutes, quoi. Au final, la vie comme elle est là aujourd'hui, elle me plaît bien. Voilà, je connais mon histoire. Enfin, c'est une belle conclusion. Je veux dire, elle sait qui je suis, je sais qui elle est. Chacun a remis les choses à sa place et on peut continuer à évoluer, à grandir, à avancer, à vieillir, à rassurer de ce qu'est l'autre et sans pour autant avoir besoin de se fréquenter.
Encore, c'était Les Pieds sur Terre avec Retrouvailles, un reportage d'Antoine Lee réalisé par Cécile Lafont. Merci à Stéphanie, à Sandrine Chaperon qui est l'attachée de production des Pieds sur Terre et à Céline Autin qui est notre stagiaire. No!